Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, les beaux malaises, réapprendre à parler d'argent. Et aider la planète, une balle à la fois. Bonne écoute.
Les beaux malaises, réapprendre à parler d'argent. Un texte de Milly Côté, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. En janvier dernier, l'autrice et chroniqueuse Claudia Larochelle en a eu ras-le-bol de voir des gens exhiber du luxe sur les réseaux sociaux, que ce soit une cuisine fraîchement rénovée ou un séjour en Sicile comme dans la série The White Lotus. Cette indignation lui a inspiré le texte « L'indécence des riches », publié sur le site avenue.ca. « C'est ma chronique la plus lue », nous dit-elle, attablée dans un pub de Rosemont. « J'ai reçu beaucoup de commentaires. Le sujet a vraiment touché les gens. Si on peut éveiller des consciences », lance-t-elle. Dans un contexte d'inflation, Claudia Larochelle en appelle à plus d'humanité financière. « Il faut se calmer les nerfs avec la démonstration de nos avoirs. » Il y a trop de souffrance économique autour de nous. Juste se loger à Montréal est devenu un enjeu. Récemment séparée, Claudia Larochelle est pigiste. Elle œuvre dans le milieu de la littérature où bien des gens en arrachent. Pendant la pandémie, j'ai trouvé les gens grossiers avec leurs chalets et leurs repas d'huîtres. Il y a une forme d'égoïsme là-dedans, affirme Claudia Larochelle. Tout juste après la publication de sa chronique, Claudia Larochelle a appris la publication imminente de l'essai « La société de provocation », dans lequel la sociologue Dalia Namian dénonce aussi l'obscénité des riches. Et presque au même moment, un rapport d'Oxfam dévoilait que le 1% des gens les plus fortunés de la planète consomment depuis 2020 les deux tiers des nouvelles richesses. Alors que les populations font tous les jours des sacrifices sur des produits de base, comme les denrées alimentaires, les ultra-riches s'enrichissent à un rythme qui dépasse leurs rêves les plus fous, se désole l'ONG. J'appartiens à cette classe moyenne qui a la chance d'être propriétaire, mais qui tire le diable par la queue tant que je ne vendrai pas mon condo, raconte Claudia Larochelle. Je suis privilégié et je trouve ça difficile économiquement, donc je me demande constamment, mais comment font les gens? Comme consommatrice, Claudia Larochelle a beaucoup changé ses habitudes. Celle qui adore les vêtements les achète aujourd'hui souvent d'occasion. Ses sorties au restaurant sont aussi devenues rares. Maintenant, on a accès à la richesse des autres sur les réseaux sociaux et nous ne sommes pas imperméables à tout ce qu'on voit, confesse-t-elle. Sa conscience environnementale est une source de culpabilité. Le même sentiment l'assaille quand elle doit se résigner à refuser un camp d'été à sa fille parce que c'est trop cher. Déboussolée dans nos choix. Dans un tel contexte, comment parler de consommation ou d'argent? Pas de shaming. C'est ce que plaide Béatrice Bernard-Poulin, qui est derrière un blog qui porte aujourd'hui son prénom, mais qui s'appelait auparavant « Hey, la cheap ». Son but, aider les femmes québécoises à vivre mieux pour moins, selon leurs valeurs et leur budget. La jeune femme prône un respect de la réalité financière de chacun, à commencer par la nôtre. Comment? En limitant nos dépenses à ce qui nous tient vraiment à cœur. L'autrice du livre « Ça coûte cher être un adulte » convient que c'est peut-être de plus en plus difficile d'avoir un rapport sain ou modéré avec la consommation. D'un côté, on se fait bombarder de codes promo sur TikTok. De l'autre, il y a ceux qui prônent la frugalité, le zéro déchet ou la liberté financière précoce, le mouvement FIRE. Ce n'est pas en shamant les gens sur leurs dépenses qu'on va les éduquer, affirme Béatrice Bernard-Poulin. Pourquoi? parce qu'on sous-estime à quel point l'argent peut stresser les gens. Si cela va de soi, de ne pas parler du rendement de son CELI avec un proche endetté, c'est peut-être une sensibilité à développer de donner le choix à un parent récemment séparé de souper à la maison plutôt qu'au restaurant. Il faut s'affirmer, renchérit celle qui se décrit comme une ancienne surconsommatrice repentie. Souvent, on a honte et on pense que les gens vont nous juger, mais c'est le contraire qui se produit. Chacun a sa réalité financière et c'est correct. Vous écoutez « Les beaux malaises, réapprendre à parler d'argent », un texte de Milly Côté paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Faire preuve d'empathie financière. Dans sa conférence, TED Talk, intitulée « Financial Empathy, Understanding the Story Beneath the Numbers », Michael G. Thomas, professeur à l'Université de Géorgie et conseiller financier de formation, cite l'exemple d'une mère de famille monoparentale qui dit à son comptable qu'elle compte acheter une grande télé à écran plat avec son remboursement d'impôts. D'emblée, beaucoup pourraient la juger. Mais il en est autrement quand on apprend que la femme veut garder ses deux adolescents à l'intérieur de son appartement, loin des vendeurs de drogue de son quartier défavorisé. Nous avons tous une histoire par rapport à l'argent qui a des conséquences sur nos décisions financières, fait valoir Michael G. Thomas, avec qui nous avons discuté sur Zoom. Quand on développe de l'empathie financière, on crée un espace sécurisé où les gens peuvent parler de leur vulnérabilité financière sans honte. Il faut essayer de comprendre le contexte de vie qui influence les décisions de chacun. Pour ce faire, il faut toutefois pratiquer une forme précise d'empathie qui est la compassion, souligne Michael G. Thomas. Ce n'est pas juste de se mettre à la place de l'autre, mais c'est de se soucier de l'autre et de reconnaître ses émotions. À travers ce processus, qu'il enseigne notamment à des conseillers financiers, les gens finissent par en apprendre davantage sur eux-mêmes que sur les autres, constate Michael G. Thomas. C'est même parfois confrontant. Michael G. Thomas, par exemple, confie avoir un tempérament économe, car il a trop souffert de voir sa mère découragée par les colonnes de chiffres qu'elle additionnait sans cesse sur une feuille de papier. On entend souvent des gens dire « Je ne suis pas bon avec l'argent ». Dans ce temps-là, je leur demande de me raconter un événement où ils n'ont pas pris la bonne décision. Quand les gens comprennent le contexte de certains regrets financiers, un divorce ou une dépression par exemple, ils ressentent moins de honte et de culpabilité. L'argent ne nous définit pas, rappelle celui qui publiera le 13 avril un livre intitulé « Black Financial Culture, Building Wealth from the Inside Out ». Il faut aussi garder en tête que le marketing et les réseaux sociaux créent ce qu'il appelle des déficits émotionnels. Il y aura toujours quelqu'un avec une plus grosse voiture et une plus grande maison. Quand on apprend à mieux se connaître financièrement, on se sent moins pris dans un système. Il faut s'orienter avec sa propre boussole, conclut Michael G. Thomas. Comprendre la pulsion d'acheter. Pour reprendre l'image de la boussole financière, pourquoi est-ce si facile de perdre le nord? Depuis 2018, l'économiste François Delorme donne à l'Université de Sherbrooke un cours sur l'économie comportementale qui peut certainement nous aider à avoir plus d'introspection sur notre façon de consommer et ce qui nous pousse à acheter deux produits dont on ignorait l'existence avant de voir une promotion 2 pour 1. L'économie traditionnelle repose sur une hypothèse de rationalité parfaite, expose l'ancien économiste en chef à Industrie Canada. Mais dans les faits, les consommateurs ne sont pas des êtres froids et calculateurs capables de contrôler leurs pulsions et de voir l'effet à plus long terme de leurs décisions d'aujourd'hui. Si c'était le cas, les gens n'achèteraient pas de VUS Range Rover à essence, ironise l'économiste. L'économie comportementale, c'est de dire que ce n'est pas vrai que nous sommes rationnels tout le temps. Elle suppose que nous avons des biais cognitifs. Il y a des obstacles psychologiques à faire ce que nous devons faire, mais que nous ne faisons pas. Acheter un sac de chips, ça te fait du bien 10 minutes, et après tu te dis « je n'aurais pas dû », illustre François Delorme. Comme nous sommes incapables de nous auto-réguler et de contrôler nos pulsions, cela mène à la surconsommation, dit-il. Monsieur Delorme cite aussi une étude menée en 2010 par les économistes Daniel Kahneman et Angus Deaton qui ont constaté qu'au-delà d'un seuil de revenu annuel de 75 000 $ US, le bonheur d'un individu par rapport à l'argent cesse de croître. La solution? Limiter la publicité autour de soi. Il faudrait même la bannir, selon François Delorme. La publicité nous amène à consommer des choses qui ne sont pas nécessaires et nous amène à nous positionner par rapport à l'autre, explique celui qui figure dans le récent documentaire d'Isabelle Maréchal, Les moyens de la classe moyenne. J'achète quelque chose car le voisin l'a. Il y a une émulation, surtout pour la classe moyenne qui aspire au même train de vie que les plus fortunés. Il y a un statut social qui vient avec ça. Il faut une introspection, résume l'économiste qui a co-signé avec Gérald Filion le livre « L'heure des choix face à l'urgence climatique et sociale » et qui plaide pour l'adoption de lois qui limitent les émissions individuelles de carbone. Vous écoutez « Les beaux malaises, réapprendre à parler d'argent », un texte de Milly Côté, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Les forces du commerce. Notre enfant a besoin de nouveaux pantalons. Notre budget est serré. Se procurer un pantalon pour 10 $ dans une chaîne de mode éphémère, fast fashion, comme H&M ou Joe Fresh, ou payer le quintuple pour qu'il soit confectionné au Québec? Choisir l'environnement ou les économies? C'est certainement un dilemme moral qui se posait moins à l'époque où le slogan de Zeller était « où le prix le plus bas fait loi ». Il y a 20 ans, il y a des forces du commerce qui n'étaient pas là, rappelle l'historienne Catherine Tourangeau. Ma mère, qui vient de la Naudière, si elle voulait des vêtements, elle devait se rendre à Joliette et il y avait 3 magasins. Les cartes de crédit utilisées massivement, c'est quelque chose de relativement nouveau, ajoute celle qu'on peut entendre sur les ondes de Pénélope à Ici Première. La mode éphémère, l'obsolescence programmée et le commerce en ligne ont aussi bouleversé nos façons de consommer. Beaucoup de gens se disent « j'ai beau être instruit, j'ai perdu le contrôle ». C'est fou le nombre d'objets que quelqu'un possède aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans, dit Catherine Tourangeau, historienne. Certes, on parle de plus en plus de consommation plus lente et durable. Mais ça demeure confidentiel. Nous sommes encore beaucoup plus dans la quantité que la qualité, et les réseaux sociaux n'aident pas. On a toujours le reflet d'autres qui ont plus que nous dans la face, fait valoir Catherine Tourangeau. L'historienne milite donc pour plus d'éducation financière, à la fois pour ce qui est des finances personnelles et publiques. Faire un budget, c'est important, mais aussi comprendre comment les impôts permettent de redistribuer la richesse. Au Québec, on peut bien vivre avec un salaire moyen. Aux États-Unis, il y a un autre niveau de souci, souligne l'historienne qui a étudié dans l'État du Connecticut et qui est revenue vivre au Québec pour son filet social. C'est une chance d'avoir des congés parentaux, un système de santé universel et un accès à des études supérieures peu chères, rappelle-t-elle. Des femmes qui donnent l'exemple. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à lancer la discussion au sujet de l'argent. Et si leurs initiatives contribuaient à dissiper le malaise et la culpabilité qui l'accompagnent? Il y a 2 semaines, Isabelle Racicot a animé une conférence virtuelle destinée aux femmes intitulée « Oser s'investir pour le compte de la Banque nationale ». On sait comment l'argent peut être tabou, a-t-elle exposé en introduction. C'est un sujet sensible, délicat, qui vient souvent avec un sentiment de honte. Honte de ne pas faire assez d'argent, honte de ne pas assez s'occuper de ses affaires, honte de s'endetter. À l'opposé, honte de faire de l'argent, surtout chez les femmes. À l'image de la conférence qui réunissait trois cadres féminines de la Banque nationale, on assiste actuellement à un mouvement de femmes et de communautés sur le web qui démocratise le discours sur l'argent en misant sur la notion de santé financière. Carmen Kong vient par exemple de publier le livre « Elle investit » aux éditions du journal. Elle fait partie des nombreuses blogueuses et conférencières qui exposent comment s'occuper de ses finances et qui montrent qu'investir est à la portée de tous. Parmi elles, Catherine Poirier, la frugaliste futée, Véronique Gagnon, gère ton bacon, et Véronique Joannis, l'argent, parlons-en. Rosie Delorme a aussi une approche inclusive avec son blog et son émission balado nanti.ca. L'élément déclencheur de son intérêt pour les finances personnelles a été une facture impayée d'un client de 10 000 $. Au lieu d'être fâchée, elle se sentait coupable. Ce qui est typiquement féminin, lance celle qui vient d'avoir un bébé. Récemment, Rosie Delorme faisait état de ses dividendes d'actions dans un texte publié sur son blog. « J'ai l'air au-dessus de mes affaires en disant que je veux être prospère, mais je suis comme monsieur et madame tout le monde. Avant, j'étais zéro pin bar. Mais ce n'est pas compliqué d'apprendre et de s'occuper de ses finances. Le fait de te sentir poche, c'est ce qui fait que tu n'iras pas à la banque faire fructifier ton argent, » dit Rosie Delorme. « Parler d'argent n'est plus réservé aux hommes à cravate, » lance-t-elle. « Et c'est faux de croire que l'intérêt de s'occuper de l'argent vient avec le fait d'en avoir beaucoup. » Exit le self-made man. Quel paradoxe que les femmes aient longtemps été exclues de la conversation sur les finances alors qu'elles géraient le budget familial, souligne Béatrice Bernard-Poulin, autre blogueuse bien en vue, autrice des livres « Ça coûte cher être un adulte » et « Vivez mieux pour moins ». Il y a deux semaines, cette dernière a participé à la conférence organisée par Youssef Galache, professeur de finance au Collège Montmorency, fondateur du site EducFinance et créateur du groupe Facebook « L'argent ne dort jamais deux ». La majorité des participants étaient des femmes, souligne-t-elle. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. L'historienne Catherine Tourangeau croit que les femmes sont en train d'humaniser les conversations sur l'argent. Un changement qui pourrait profiter à tout le monde. On s'éloigne du discours du « self-made man », note-t-elle, parce qu'on a parlé de privilèges et de qui bénéficie de certaines structures. Je pense qu'il y a une prise de conscience que la richesse n'est plus juste une question de travail et de mérite. Surtout au Québec, où les cercles sociaux sont plus diversifiés. Le fait que plus de femmes font de l'argent change la dynamique, ajoute-t-elle. J'ai l'impression qu'on se dirige vers plus de transparence et plus d'honnêteté par rapport à nos moyens. C'était « Les beaux malaises, réapprendre à parler d'argent », un texte de Milly Côté, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Aider la planète, une balle à la fois. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 6 avril 2023 dans La Presse. 400 ans. C'est le temps que met une balle de tennis à se décomposer. Dans l'objectif de redonner au sport qui lui a tant apporté, l'entrepreneur Pierre Langlois a lancé Recycle Balles Canada, une initiative qui permet de recycler jusqu'à 100 000 balles de tennis par année au Québec. Pierre Langlois a pratiqué le tennis en tant que semi-professionnel pendant de nombreuses années. Le sport lui a même permis de rencontrer sa femme lors d'un tournoi en Europe. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, tous des joueurs de tennis, vous l'aurez deviné. Tissé serré, la famille a voyagé partout dans le monde, visitant les plus beaux terrains. Wimbledon, Indian Wells, Roland-Garros. C'est devenu comme un mode de vie, lance l'homme de 60 ans en entrevue avec la presse. Monsieur Langlois, qui est aussi depuis 2002 le président de la firme Econolaire, s'est beaucoup investi dans le développement du tennis à Québec au fil des années. « Le tennis m'a donné beaucoup, alors il faut redonner », dit-il. Il y a 8 ans, c'est lui qui a tout mis en place afin de créer le programme de tennis du Rouge et Or à l'Université Laval. Il souhaitait offrir aux étudiants ce que lui-même aurait tant rêvé d'avoir. Puis, il a voulu engager des entraîneurs de qualité pour les athlètes, explique-t-il. Mais pour y arriver, il lui fallait trouver une source de financement. C'est là, à ce moment précis, qu'est née l'idée de recycler des balles de tennis, jetées par millions annuellement. Ultimement, le projet s'est avéré une mauvaise idée pour le financement, mais une bonne idée pour le reste. Tandev. Pierre Langlois a quitté l'Université Laval avant la pandémie, mais il a gardé son projet environnemental bien en vie. En fouillant un peu dans ses temps libres, il a découvert l'OBNL américain Recycled Balls, qui ramasse les balles de tennis, en fait un recyclage et réussit à faire un business viable. Après de nombreux coups de fil et discussions, le Québécois a obtenu une licence d'opération canadienne de Recycled Balls. Le principe est simple. Des boîtes de recyclage identifiées sont installées près des terrains. Les joueurs n'ont qu'à y déposer leurs balles. Une boîte permet de recycler 200 balles. Le programme canadien, mis sur pied avant la pandémie, est actif depuis environ 1 an. Pour le gérer, M. Langlois a créé l'OBNL Tandev, une fusion des mots tennis et développement, qui est gérée par la famille Langlois, dont les 4 enfants. Ils font toutefois face à 2 problèmes. Contrairement aux États-Unis, les clubs de tennis inscrits ne reçoivent pas de crédit d'impôt lorsqu'ils achètent une boîte, et le coût d'une boîte est actuellement de 20 $. Qui plus est, comme les frais de transport sont beaucoup plus élevés au Canada qu'au sud de la frontière, ce sont les clubs qui doivent venir chercher les dites boîtes eux-mêmes, puis aller les reporter dans les centres prévus une fois qu'elles sont remplies. Il y a 3 centres pour l'instant, à Montréal, à Québec et à Ottawa. Quand j'ai assez de boîtes, je fais une palette que j'envoie par transporteur à l'usine de Burlington, fait savoir M. Langlois. Ça coûte beaucoup moins cher que de prendre chaque boîte individuelle et d'appeler Puro Later comme si on envoyait une enveloppe. À l'usine, les balles sont transformées afin de séparer le feutre et le caoutchouc et de créer différents produits dérivés en or vert, comme des courts de tennis ou des couvre-sols pour les arènes équestres. La surface est extrêmement durable parce que c'est du caoutchouc, donc c'est indestructible. Jusqu'ici, une 30aine de clubs de Québec, Montréal et Ottawa sont inscrits, sans compter un grand partenariat avec Tennis Canada qui recycle toutes les balles de ses tournois. Dans les clubs, le nombre de boîtes varie. Par exemple, le club Avantage à Québec a 13 terrains et donne 50 boîtes pleines par année. C'est quand même 10 000 balles. Au total, plus de 100 000 balles ont été amassées dans la dernière année par Recycle Balles Canada. C'est déjà beaucoup, on en convient, mais ce pourrait être bien plus. Actuellement, on est bien en dessous de ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on va ramasser 1,5 million de balles au Québec? La réponse, c'est non. On n'y arrivera pas à 100%. Est-ce qu'on pourrait faire 40%? Ramasser 500 000 balles par année? Possible. Le grand défi. M. Langlois persiste et signe. Les joueurs sont extrêmement motivés de récupérer des balles. C'est dans l'esprit du temps. Quand un club habitué d'avoir des boîtes n'a plus de boîtes, il se fait demander où elles sont. Parce que les gens, naturellement, ça les réconforte de savoir qu'ils ne pollueront pas avec leurs balles. Mais Encore faut-il qu'il y ait des boîtes de disponibles. Il y a des clubs qui adhèrent et d'autres qui n'adhèrent pas encore. Notre gros défi, c'est que ça coûte quelque chose. Dès que ça coûte quelque chose, tu as toujours l'écart entre « je veux protéger l'environnement, mais je ne veux pas payer ». Pierre Langlois, fondateur de Recycle Bal Canada. Les solutions, donc, sont peu nombreuses. La plus évidente, engager quelqu'un à temps partiel pour s'occuper de la logistique, appeler les clubs, aller porter les boîtes, etc. Pour ça, il faut de l'argent. Il n'y a pas de subvention du gouvernement du Québec qui me permet à ce jour de dire « je vais vous aider à couvrir les frais de collecte qui sont les frais récurrents annuels ». Si j'étais capable d'avoir 15 000 $ par année, je pourrais engager quelqu'un, un étudiant, chaque année. Dans tous les cas, M. Langlois n'en est encore qu'au point de départ de ce grand projet environnemental. Et, pour toute chose qui finit par être un grand succès, il faut avoir un point de départ, rappelle-t-il sagement. C'était « Aider la planète une balle à la fois », un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 6 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.